Vous écoutez, on lit pour vous.
Des canons saisis à Québec en 1759 pourraient-ils faire l'objet d'une demande de restitution? Un texte de Dave Noël, paru le 6 juin 2025 dans Le Devoir. Des canons français saisis lors du siège de Québec de 1759 dorment aujourd'hui à Portsmouth, en Angleterre, après un séjour à la Tour de Londres. Ces pièces uniques, qui trônaient devant la résidence du gouverneur de la Nouvelle-France, pourraient faire l'objet d'une demande de restitution. À ce jour, ni Ottawa ni Québec ne se sont toutefois manifestés. Pour le moment, nous ne disposons pas de correspondance relative à une demande de rapatriement, confirme la porte-parole des Royal Armouries, Claire Hutchison, tout en pointant la politique de restitution du musée abritant l'une des plus grandes collections d'armes au monde. Les réclamations sont analysées à la pièce en tenant compte du fondement moral et éthique de leur acquisition, lit-on dans le document. Le ministère du Patrimoine canadien n'a pas l'intention de déposer une demande particulière pour réclamer ces trophées de guerre chargés de symboles, indique le porte-parole David Larose au Devoir. Mais il pourra fournir un soutien financier aux musées intéressés par leur rapatriement, le cas échéant, fait-il remarquer. La restitution des artefacts ne figure pas dans les cartons du ministère québécois de la Culture et des Communications. Les dispositions de la loi sur le patrimoine culturel ne s'appliquent pas aux objets situés à l'extérieur du territoire du Québec, a précisé un relationniste du ministère. Exceptionnel. Les canons québécois de Portsmouth sont remarquables par leur ornementation. On peut notamment y admirer des serpents issus des armoiries de Jean-Baptiste Colbert, le ministre de la Marine en poste au moment où les pièces sont sorties des forges françaises aux alentours de 1670. Ça devait être les plus beaux canons de Québec, observe l'archéologue Paul Gaston Langlais, en scrutant attentivement les photos de leurs tubes munis de poignées en forme de dauphin. Ces pièces en bronze étaient de petit calibre pour l'époque, ne tirant que des boulets de 3 livres, soit le poids d'un cantalou moyen. La présence de ces canons à Québec jusqu'au milieu du 18e siècle étonne le spécialiste en culture matérielle. Après la refonte de l'artillerie française de 1679, il n'y avait plus de boulets de 3 livres, explique l'Anglais. C'était donc devenu des canons décoratifs. Cette artillerie de prestige se trouvait justement dans la cour intérieure du château Saint-Louis, la résidence des gouverneurs de la Nouvelle-France, juchée au sommet des falaises du Cap aux Diamants. Les deux pièces y ont été récupérées par les Britanniques au milieu des ruines de la ville, qui s'est rendue le 18 septembre 1759, après un bombardement intensif de 67 jours. Les canons de Québec ont d'abord été exposés au grand arsenal de la Tour de Londres, avant d'aboutir entre les murs du Fort Nelson, un ouvrage des années 1860 défendant la base navale de Portsmouth. Ils y côtoient aujourd'hui d'autres bouches à feu de toutes les époques, dont un howitzer sur rail de 200 tonnes datant de la Première Guerre mondiale. Mystère. En 1759, l'enceinte de Québec était défendue par 235 canons tirant des boulets de 2 à 36 livres, selon un inventaire réalisé par les conquérants britanniques. Les deux canons néo-français de Portsmouth seraient les derniers éléments intacts de ce parc d'artillerie imposant, dont l'efficacité avait toutefois été compromise par une pénurie de poutre noire. Les spécialistes consultés par Le Devoir ignorent ce qu'il est advenu de tous ces canons au lendemain de la conquête britannique. Selon Paul Gaston Langlais, les nouveaux maîtres de Québec ont sans doute intégré les pièces correspondant au calibre de leurs boulets. Les autres ont vraisemblablement été détruites à la masse, puis fondues, afin de récupérer la matière. C'est une hypothèse, prévient Langlais. Les canons que l'on peut aujourd'hui apercevoir dans les rues du Vieux-Québec ont pour la plupart été conçus dans la seconde moitié du règne de Georges III, 1760-1820. Ces modèles, Blomfield, sont reconnaissables à l'entrelacement des lettres G et R accompagnées du chiffre 3 moulé sur leur tube. La collection d'artillerie de la capitale comprend également des caronades servant d'armes antipersonnelles sur les navires de guerre du 19e siècle. À cela s'ajoutent deux canons russes de 1749 qui ont été apportés de Crimée en guise de trophée dans le courant de la décennie 1850. Les seules pièces françaises du parc d'artillerie actuel de Québec sont des reproductions offertes par la France de Valéry Giscard d'Estaing pour décorer la batterie royale reconstituée à partir de ses ruines en 1976. On y trouve également une poignée de canons lourdement corrodés récupérés sur des sites d'épaves. Précédent, la rétrocession d'artefacts n'est pas une pratique inhabituelle. En 1925, la ville de Québec a ainsi récupéré les armoiries ornées de fleurs de lys qui étaient accrochées à l'une de ses portes fortifiées. L'œuvre en bois massif sculptée par Noël Levasseur avait été emportée en Angleterre avec les deux canons du château Saint-Louis afin de célébrer l'Annus Mirabilis britannique de 1759. Le corset métallique de Marie-Joseph Corriveau, dans lequel le cadavre de la meurtrière présumée a été exposé en 1763, a lui aussi fait l'objet d'une rétrocession médiatisée. Ce sinistre artefact avait franchi la frontière américaine au siècle suivant à bord des caravanes d'un cirque ambulant. Récupéré par le Peabody Essex Museum de Salem, au Massachusetts, il a été cédé au Musée de la civilisation de Québec dans la décennie 2010. Chassé-croisé. Paul Gaston Langlais émet un bémol concernant le retour éventuel des canons de Portsmouth. C'était tout à fait légitime à l'époque de les prendre, souligne l'archéologue, qui redoute un chassé-croisé de rétrocession. Le spécialiste donne l'exemple des 7 canons allemands apportés à Québec au lendemain de la Première Guerre mondiale. Les descendants des militaires qui ont procédé à cette saisie seraient totalement opposés à leur restitution, dit-il. La charge symbolique des pièces prises à Québec en 1759 n'est-elle pas plus élevée que celle des nombreux canons du Deuxième Reich éparpillés dans le monde? Oui, mais ils en ont une encore plus grande pour les Anglais qui ont conquis le continent nord-américain, conclut l'Anglais. C'était des canons saisis à Québec en 1759 pourraient-ils faire l'objet d'une demande de restitution? Un texte de Dave Noël, paru le 6 juin 2025 dans Le Devoir.
Pas le temps ni le moment de se diviser. Et pourtant, une chronique de Denis Daniel Boulay parue le 22 juin 2025 dans le magazine Fugue. Deux défilés, deux fiertés différentes. La rupture est totale entre Fierté Montréal et des organismes LGBTQ2S+. Une fierté indomptable, traduction peu heureuse de « Wild Pride », a vu le jour et tiendra des activités sur 3 semaines en parallèle du Festival Fierté Montréal. En toile de fond de cette rupture, le conflit israélo-palestinien. Bande de Gaza, Soudan, Yémen, Les crises humanitaires se multiplient sans que nous puissions réellement y faire quelque chose, à part crier notre indignation. La situation dans les territoires palestiniens retient particulièrement l'attention des médias, notamment en raison de l'interdiction par Israël de l'entrée des convois de denrées et de médicaments à Gaza. On pense aux enfants, aux familles, aux morts à venir. Le Soudan, le Yémen, on y pense un peu moins. Pourtant, même si les organismes humanitaires y sont présents, les conditions de vie, de survie quotidienne des populations devraient tout autant nous révolter. En somme, doit-on hiérarchiser l'horreur? Et en quoi sommes-nous concernés en tant que communauté LGBTQ2S+? En quoi serions-nous plus concernés que l'ensemble de la population, que nos gouvernements, que les grands patrons de l'industrie? Pas plus ni moins que ces derniers, aurais-je envie de dire. La fête du Canada et la fête nationale des Patriotes n'ont pas entraîné de dissension autour de la question palestinienne. Et pourtant, tant le Canada que le Québec entretiennent des relations avec le gouvernement Netanyahou et aussi avec des pays musulmans qui financent le Hamas. On pourrait également rappeler que le Canada vend des armes à l'Arabie saoudite, armes utilisées dans le conflit au Yémen. Pas de grand mouvement ici pour demander au gouvernement fédéral de cesser ses ventes, comme l'ont fait d'autres pays, la Belgique et l'Irlande, entre autres. Au nom de grands principes humanitaires, nombreuses sont les causes aujourd'hui qui pourraient être reprises par les mouvements LGBTQ2S+, en s'appuyant sur le concept récent d'intersectionnalité. Après tout, pourquoi pas? Nous ne sommes pas que lesbiennes, gays, trans, bi, bispirituelles ou queer. Nous sommes portés par d'autres identités, culturelles, sociales, politiques, religieuses. Et nous tenons, pour des milliers de raisons, à les préserver, à les défendre ou à créer des solidarités, comme aujourd'hui avec le peuple palestinien contre l'État d'Israël, ou plus précisément contre le gouvernement actuel d'Israël. Et c'est au nom de cette solidarité que l'on voudrait que Fierté Montréal en fasse davantage, et si l'on en croit l'article de Mario Girard, paru dans la presse le 25 mai dernier, relatant une rencontre entre les dirigeants dirigeantes de l'organisme et des représentants représentantes des groupes dissidents qui ont décidé en avril de ne plus participer à Fierté Montréal. L'an dernier, comme dans d'autres marches des fiertés à travers le monde, des manifestants manifestantes pro-palestiniens ont perturbé les défilés, reprochant notamment, ici à Montréal, la présence de groupes juifs ou encore les liens que Fierté Montréal entretiendrait avec des entreprises ayant des relations commerciales ou financières, de près ou de loin, avec Israël. Dans ce débat, on avance sur un terrain miné. Il n'y a pas de place pour une troisième voie, VOIX, ou une troisième voie, VOIE. On est sommé de choisir. Si l'on défend la population gazaoui, on se fait taxer d'antisémite. Si l'on ne condamne pas Israël, on devient complice d'un génocide. On se retrouve ainsi pris dans un étau, avec une grenade qui nous explose tôt ou tard dans les mains. Et c'est ce qui arrive à Fierté Montréal. Quelles que soient les décisions prises ou à venir, on lui reprochera toujours d'être complice de l'un des deux camps, sans que cela ouvre pour autant la voie aux convois humanitaires vers Gaza ni à la création d'un État palestinien. Bien sûr, il faut s'insurger, protester contre ce qui se passe à Gaza. Mais s'en prendre à Fierté Montréal, est-ce la bonne stratégie? Ne nous trompons-nous pas d'ennemis? Pire, aurais-je envie d'ajouter, n'est-ce pas plus facile de s'en prendre à un événement pacifiste, festif, que de bloquer la sortie des usines d'armement, de manifester nuit et jour devant l'ambassade d'Israël? Que sais-je encore? Plutôt que d'exiger que les organismes LGBTQI2S+ soient plus vertueux au nom de l'intersectionnalité? Depuis des décennies, dans la controverse et sous les attaques, les groupes LGBTQI2S+ se sont battus pour faire reconnaître leurs droits, pour faire entendre leur voix, sans prise d'otage, sans attentat, sans guérilla, sans armes pointées sur des ennemis. Devrait-il aujourd'hui porter toutes les causes, seul, à bout de bras, au nom de cette fameuse intersectionnalité? Et s'ils ne le font pas, sont-ils pour autant insensibles, déconnectés de ce qui se passe à Gaza ou ailleurs dans le monde? Ce raccourci est inacceptable. Enfin, est-ce vraiment le moment de jouer la carte de la rupture au sein de nos propres communautés, alors que nous assistons à des reculs impensables il y a encore quelques années? Les droits ne sont jamais acquis, ils sont toujours à défendre. Et nous n'avons pour nous battre que des talons hauts et des paillettes, la fête, entre autres. Elle est une de nos plus grandes armes. Elle invite au partage, à l'inclusion, à la reconnaissance de l'autre avec un grand A. Sans carte d'identité pour prouver son appartenance à une lettre de l'acronyme, sans exclusion fondée sur les origines religieuses ou ethniques. Comme communauté LGBTQI2S+, nous n'avons jamais tenté d'envahir un pays. Nous n'avons pas de fanatiques s'attaquant aux hétéros. Nous n'avons pas commandé d'armes à un quelconque gouvernement, ni laissé derrière nous pogroms et camps de réfugiés. Certes, Fierté Montréal est un festival. On peut lui reprocher de ne pas être assez militant, assez revendicateur. Mais en coupant les ponts, on ne risque pas de l'amener à en faire plus. Bien au contraire. Il est alors facile, sans grand risque et sans grand courage, de s'en prendre à Fierté Montréal. Facile de s'en prendre à un organisme imparfait. Y a-t-il un organisme parfait? Certes, mais qui nous permet encore et toujours de résister dans la joie. Et de la joie, nous en avons besoin. Elle recharge les batteries, elle alimente l'espoir. Pour ma part, étant un transfuge de tous côtés et de tous bords, sans éducation religieuse, né, ayant grandi puis travaillé dans un monde dominé par l'hétéro-patriarcat capitaliste et néocolonial, j'essaie de ne pas me tromper d'ennemis. Et ceux-ci ne se trouvent pas du côté de Fierté Montréal, loin de là. C'était pas le temps ni le moment de se diviser, et pourtant, une chronique de Denis Daniel Boulay, parue le 22 juin 2025 dans le magazine Fugue.
Notre capitaine Achab. Victor Lévy-Beaulieu, 1945-2025. Un texte de Dany Laferrière, paru le 11 juin 2025 dans La Presse. Quel diable d'homme que ce Victor Lévy-Beaulieu! Il aura poursuivi, sa vie durant, cette baleine blanche, qui n'est pas celle de Melville, même si l'auteur de « La nuit » de Malcolm Hood a nourri la délirante démesure et l'entêtement singulier du maître à bord du baleinier Pequod, le capitaine Achab, personnage principal du célèbre roman de Melville, Moby Dick, devenu avec le temps le plus important héros de la littérature américaine. Melville, certes transpercé par les flèches du péché originel et tétanisé par l'impossibilité de rédemption, ne cessait de revenir à la charge, tâtonnant dans l'obscurité jusqu'à tomber sur cette baleine éblouissante de blancheur. De son côté, Victor Lévy-Beaulieu, plus prosaïque, a tenté de donner au Québec un écrivain de stature universelle. Et cela, même si, pour ce faire, comme la célèbre baleine, il a avalé, puis digéré, les plus grands esprits croisés sur son chemin. Melville chasse la baleine et Victor Lévy-Beaulieu devient une ronde baleine en ratissant les fonds marins de sa bibliothèque. Il a terriblement besoin des morts pour exister. On comprend alors pourquoi cet homme a passé sa vie à ronchonner, maudissant parfois ses contemporains, jusqu'à se réfugier dans les bois pour les éviter avant de les convoquer pour une séance de clownerie. Comme Melville, encore une fois, qui, quand il n'était pas en train de lécher ses blessures spirituelles ou les nombreux échecs de ses romans dits de voyage, ou de se frapper le front contre le mur de sa passion pour Hawthorne, connaissait d'affolants passages à vide. Il s'en prenait alors à ses écrivains anglais du moment, simplement agréables, et dont l'influence sur la jeune mais bondissante littérature américaine ne cessait de l'étonner. Il prédisait une montée si fulgurante de cette littérature qu'elle ferait pâlir la littérature moderne anglaise, celle qui s'ébrouait autour des années 1850. L'impression d'entendre Victor Lévy Beaulieu à propos de la littérature québécoise par rapport à la française, sa confiance dans le destin de cette littérature québécoise n'étant jamais ébranlée, et cela, même s'il a déjà exprimé certains doutes sur l'ambition de nos jeunes écrivains. Nul besoin de dire qu'il a eu tort sur cette appréciation, car chaque génération, si ce terme si détestable est valable en littérature, cherche à explorer des contrées inédites. Et l'ambition n'est pas toujours liée au volume ou à la puissance. Le ruisseau Rimbaud tient tête à l'océan Hugo, ou, si vous voulez, le vaisseau d'or de Nelly Gant navigue sans couler dans le fleuve d'encre qu'est l'œuvre monumentale de Victor Lévy Beaulieu. Une œuvre dont une grande partie est dédiée aux autres et est aussi faite par les autres. Son originalité réside dans cette faculté d'admirer, si chère à Malraux. Ne me reprochez pas tous ces noms, car VLB a ouvert les fenêtres du Québec sur le monde en écrivant des livres entiers et non de simples citations comme on fait dans les salons, sur Hugo, Kerouac, Melville, Atwood, Joyce, Nietzsche. Qui dit mieux? Et il les ramène au Québec, dans son œuvre, jusqu'à donner l'impression que Melville, Hugo ou Joyce sont en fait des écrivains québécois. Quelle jolie façon de dire que le Québec est à ses yeux le cœur du monde rêvé, à défaut de l'être dans le monde réel. En effet, il s'est fâché plusieurs fois avec le Québec réel, qui lui semblait douter de sa propre réalité. L'homme qui aimait faire des déclarations intempestives était aussi un bûcheron solitaire, qui s'enfonçait longtemps dans la forêt des voix, où il avait appris le silence et le monologue sans fin. Vous avez compris que ce veilleur de nuit, tout en contraste comme son vieil ami Melville, a vécu mille tourments, dont le plus douloureux était l'impression d'être oublié de son vivant. Ses livres étaient de moins en moins commentés, ou même feuilletés. Pas parce qu'ils étaient sans intérêt. Il a aussi écrit des livres sur les plantes qui guérissent et était un écologiste forcené. Mais parce que personne ne voulait se colter à lui. Qui a lu son diabolique 666, Friedrich Nietzsche, 1392 pages? Melville avait jeté son dévolu sur Hawthorne, qui lui rendit cette amitié un bref temps. Lui, Victor Lévy Beaulieu, était de plus en plus seul vers la fin. Tremblay était en Floride, et Blais, Hébert, Ducharme, Aquin, Ferron, Miron, la forêt dépeuplée, n'était plus là. Il faut dire qu'il n'a pas beaucoup fréquenté les vivants non plus. Victor Lévy-Beaulieu a admiré passionnément Melville, qu'il n'a pourtant jamais rencontré. En fait, il s'agissait de la poursuite d'une baleine blanche, cet animal marin qu'on ne peut chasser que si on est prêt à le suivre, parfois à plus de 5000 mètres de profondeur, de ces profondeurs dont on ne remonte jamais. Aujourd'hui, pour retrouver l'écrivain de Trois Pistoles, il faudra un long souffle et cette ambition démesurée qui ne sont accordées qu'aux fous, aux saints et aux génies. Je ne sais même pas si on a les moyens nécessaires pour évaluer cette œuvre ou la générosité requise pour comprendre l'abnégation de cet homme aux lèvres minces, aux mains délicates, aux cuisses solides qu'il aimait exhiber, sans oublier chapeau et pipe. Je revois l'étonnement de Melville en lisant la lettre d'admiration de Hawthorne. Un homme avait tenté de le comprendre quand tous les autres cherchaient à le ridiculiser. Victor Lévy-Beaulieu a besoin de lecteurs plus que des larmes. Il nous faut le lire ou le relire pour apprécier cet incroyable saut périlleux dans l'obscurité. Commencez cet été par son Melville, Monsieur Melville, et son Joyce, James Joyce, le Québec, l'Irlande, les mots, essai hilar, pour ceux qui n'ont pas peur des grands massifs. Ma première lecture en arrivant au Québec, c'était « Les grands-pères », paru en 1971 et réédité en 2011, dans une certaine indifférence. Toute l'œuvre était déjà là. Dans le livre de Victor Lévy-Beaulieu, il y a « La mort, l'auteur et le lecteur », écrivait Ferron. La mort ayant amené l'auteur avec elle pour une promenade qui n'est pas de santé, il reste le lecteur. Qu'est-ce qu'on attend alors? C'était notre capitaine Achab, Victor Lévy-Beaulieu, 1945-2025. Un texte de Dany Laferrière, paru le 11 juin 2025 dans La Presse.